Bonjour et bienvenue à Balado-Thérapie, le projet balado de l'Académie de massage scientifique. On va vous vulgariser des sujets en lien avec la massothérapie, mais également recevoir des experts du milieu. Que vous soyez seulement curieux d'en apprendre plus ou que vous envisagez une nouvelle carrière, il y en aura pour tous les goûts. Êtes-vous prêts? Aujourd'hui, plutôt que de vous parler d'un sujet spécifique, je vais vous démystifier quatre mythes, quatre fausses croyances entourant le monde de la massothérapie, soit le massage c'est sexuel, les traitements thérapeutiques c'est de la torture, les massothérapeutes sont des chamans et des hippies, et finalement, n'importe qui peut s'improviser massothérapeute. Bien sûr, rien de ça n'est vrai et c'est ce que je vais vous expliquer dans l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute! Et oui, malheureusement, malgré la grande reconnaissance du domaine de la massothérapie de nos jours, certains mythes, préjugés ou stéréotypes perdurent encore dans le temps malgré tout. Que ce soit dans les films ou dans la culture en général, ces stéréotypes-là sont souvent adressés de manière humoristique pour taquiner, mais ça reste que ça a un impact sur la vision qu'ont les gens de la profession. Commençons avec le premier mythe qui est sans doute le plus tabou. Le massage, c'est sexuel. Bon, premièrement, on sait tous que c'est complètement faux, mais la confusion vient malheureusement des fameux salons de massage où on retrouve des masseuses et où on parle parfois d'extra. Les professionnels ne sont pas des masseurs ou masseuses, mais des massothérapeutes. Pour vous aider, la plupart des associations ont des registres de leurs thérapeutes sur leur site internet pour vous aider à trouver un soin selon vos besoins. C'est pour ça aussi qu'on ne conseille pas aux massothérapeutes d'afficher leurs offres dans les petites annonces, puisqu'elles pourraient se retrouver justement mélangées avec ces fameux salons de massage. C'est pas pour rien non plus que l'AMS s'appelle Académie de massage scientifique, pour bien mettre justement cette séparation entre le massage de loisir, si je peux dire, et les soins thérapeutiques basés sur la science et la biomécanique. Heureusement, ce cliché-là est de moins en moins présent, mais ça reste quand même important d'adresser la situation pour éliminer tout doute qui pourrait persister. Faut savoir aussi que les techniques de massage sont toujours faites dans le plus grand respect du client et les thérapeutes se doivent de toujours respecter les limites de ceux-ci. Il y a même beaucoup des techniques de drapage spéciales pour justement assurer la plus grande discrétion et intimité possible lorsque vous devez par exemple changer de position sur la table ou lorsqu'il faut dégager une partie du corps pour la masser. Les massothérapeutes ont des techniques spéciales pour tenir les serviettes devant eux pour cacher la vue le plus possible, plier certains coins, aller les porter en dessous du bras pour cacher la poitrine, par exemple. Donc, il y a vraiment des techniques de drapage qui sont faites pour vous mettre à l'aise. Puis, il faut aussi savoir que le toucher est toujours dans une optique thérapeutique et vous avez toujours le dernier mot sur les zones que vous voulez vous faire masser ou non. Passons maintenant au deuxième mythe qui est un peu moins tabou, mais tout aussi présent. Les traitements thérapeutiques sont de la torture. Ce mythe-là est beaucoup plus associé aux fameux ramancheurs, ces craqueurs de dos tant convoités, mais comme beaucoup de gens ont encore de la difficulté à différencier les différents thérapeutes, par exemple la différence entre un massothérapeute, un kinésithérapeute, un orthothérapeute, un physiothérapeute, etc., eh bien ça fait une conception un peu floue des différentes professions et de leur champ de pratique. Rappelez-vous que les massothérapeutes ne travaillent que sur les muscles, donc, il n'est pas question de craquer des os ou d'étirer des articulations. Les mobilisations par le mouvement respectent toujours le jeu articulaire, puis jamais un thérapeute ne va tirer ou donner un coup sec. Il va vous demander, par exemple, de faire des mouvements un peu comme si vous pédaliez à vélo, il va vous demander de lever le bras dans les airs un petit peu en inspirant. Ils peuvent aussi vous demander de vous mettre en certaines positions, comme par exemple en petit chat sur les genoux, un petit peu comme une position de yoga, pour aller travailler avec le vibromasseur dans le bas du dos, mais jamais ça va dépasser votre aisance et vos limites physiques. Ça me fait aussi penser aux fameuses images de quelqu'un qui reçoit un massage avec un marteau piqueur parce que il a vraiment mal, ou des gens qui demandent parfois avoir un thérapeute homme parce qu'ils ont l'impression que quelqu'un de plus grand, plus bâti va peser plus fort, donc plus on pèse fort, plus ça fait du bien. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça marche. On s'entend que le but, c'est de vous soulager et non de vous faire mal. Bien sûr, il peut peut-être avoir un petit inconfort si, par exemple, vous avez vraiment mal aux épaules, puis que vous avez une petite tension, vous avez un petit nœud, puis le thérapeute va travailler dans cette région-là, mais jamais on devrait aller dans la douleur. Si c'est un petit peu inconfortable, ça se peut, mais même là, comme je disais précédemment, c'est toujours vous qui a le dernier mot. Vous pouvez demander « Oh, un petit peu moins de pression, s'il te plaît » ou « J'aimerais ça que tu laisses faire cette épaule-là parce que ça me fait un peu trop mal. » Mais vous n'avez jamais à endurer un inconfort en vous disant que ça fait partie du soin. Dès que ça fait plus du bien, on arrête. Bref, c'est toujours dans l'optique de faire bouger le muscle qui est maintenant réchauffé après le massage. Souvent, les tensions ou les fameux nœuds qu'on appelle, c'est juste un signal que le cerveau envoie au corps de bloquer ce muscle-là. C'est pourquoi le thérapeute commence tout le temps par mettre le client en état de relaxation et de détente pour qu'il se laisse vraiment aller et détendre tous les muscles. Déjà là, ça envoie un signal au cerveau de « il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de stress, tout va bien ». Ensuite, le thérapeute va masser la zone qui est tendue pour justement réchauffer le muscle en même temps d'envoyer des signaux au cerveau que tout se passe bien. Puis une fois que ces deux choses-là sont faites, que le client, donc vous, est en mode parasympathique qu'on appelle, donc en relaxation profonde, puis que le muscle est réchauffé, on va faire l'immobilisation par le mouvement pour réintégrer ce mouvement-là justement dans les habitudes de vie de la personne. Mais on s'entend que c'est vraiment différent du fameux préjugé qu'on arrive à froid puis qu'on se fait tirer et craquer. Donc au risque de me répéter, n'oubliez pas que les massothérapeutes, kinésithérapeutes et orthothérapeutes ne travaillent que les muscles et que vous avez toujours votre mot à dire sur le déroulement du soin. On est déjà rendu au troisième mythe qui lui s'inscrit plus dans la perception de la profession que dans sa pratique. Et c'est-à-dire que les massothérapeutes sont des chamans et des hippies. Je suis certain que vous vous imaginez la scène. Une pièce qui sent l'encens, des chandelles, de la musique ésotérique avec du sitar. C'est le stéréotype parfait du massage spirituel comme on le voyait dans les années 70. C'est sûr qu'il y a beaucoup de pratiques gravitant autour de la massothérapie qui impliquent le domaine de l'énergétique, mais ça ne fait pas non plus de ces personnes-là des hippies nécessairement. Il n'y a rien de mal non plus à avoir un côté spirituel. Il faut apprendre à ne pas mettre tout le monde dans le même panier à cause de leurs intérêts. Par contre, c'est vrai que la ligne peut être mince. Il y a une différence entre quelqu'un qui inclut des pratiques plus énergétiques dans sa pratique et une autre personne qui s'autoproclame, par exemple, guérisseur ou ayant des pouvoirs naturels, d'où le fameux cliché des chamans qui soignent comme par magie. Comme je mentionnais plus tôt dans l'épisode, l'Académie est vraiment plus dans un aspect scientifique et biomécanique de la massothérapie, donc on s'éloigne vraiment de ce préjugé. C'est sûr qu'il y a quand même une certaine ambiance lors d'un soin en massothérapie, notamment avec la musique relaxante et les huiles essentielles, mais on n'est vraiment pas dans l'ésotérisme. Les huiles essentielles sont choisies vraiment en fonction de leurs bienfaits et de leurs propriétés dans une approche d'aromathérapie et la musique douce, elle, ça favorise la relaxation du client. Par exemple, certaines huiles pourraient avoir des propriétés antibactériennes, d'autres vont être plus antifongiques, d'autres vont plus être analgésiques, certaines vont plus être anti-inflammatoires. On peut faire aussi des combinaisons d'huiles essentielles, mais il faut faire attention parce que certaines ne sont pas compatibles ou certaines combinées ensemble vont avoir un autre effet que si elles étaient utilisées juste seules. Donc rien de ça n'est laissé au hasard, puis il y a vraiment une raison scientifique derrière l'utilisation des huiles essentielles, c'est pas juste parce que ça sent bon. Donc, ça se peut que de thérapeute en thérapeute, le style de musique change, ils n'utilisent pas nécessairement les mêmes huiles, les mêmes crèmes, puis c'est normal puisque chaque thérapeute est unique. En tant que client, vous pouvez toujours essayer plusieurs thérapeutes et cliniques pour voir lequel vous convient le mieux. C'est vraiment à votre droit. Ça se peut qu'il y ait certaines approches qui vous plaisent moins, puis c'est bien normal. Donc, discutez-en avec votre thérapeute, puis choisissez ce qui fonctionne pour vous, ce qui donne des résultats, puis ce qui vous fait sentir mieux, parce qu'au final, c'est vraiment ça l'important. Vous allez le voir par vous-même, il y a vraiment toutes sortes de thérapeutes pour toutes sortes de clients. Vous pourriez avoir, par exemple, un thérapeute super poussé en thérapeutique spécialisant sportif, mais qui a quand même un petit côté ésotérique, puis qui décide d'avoir un soin de massage aux pierres précieuses, par exemple. Vous pourriez avoir aussi quelqu'un qui semble beaucoup plus spirituel, qui est vraiment plus dans les techniques énergétiques, mais qui est tout aussi spécialisé en thérapeutique, mais que c'est juste pas sa marque de commerce. Donc, c'est pourquoi je trouve que c'est important de pas mettre les gens dans le même panier ou de pas les catégoriser tout de suite juste parce qu'on a des préjugés sur certaines techniques. Tout ça nous amène à notre dernier mythe, comme quoi n'importe qui peut s'improviser massothérapeute. Ce stéréotype sous-entend que n'importe qui peut se proclamer massothérapeute. Tout le monde peut masser. Il suffit d'avoir deux mains, un lit, une table ou une chaise et le tour est joué. Bon, oui, tout le monde peut effectivement masser dans cette optique, dans le sens que tout le monde peut poser ses mains sur le dos de quelqu'un. Mais seul un professionnel peut vraiment offrir un véritable traitement de massothérapie. Les praticiens en massothérapie ont au moins 400 heures de formation, puis les massothérapeutes avancés de leur côté, c'est au moins 1000 heures. Ils ont appris des techniques et des protocoles précis qui ont des objectifs ciblés. C'est loin d'être de l'improvisation, donc même les endroits qui offrent des cours d'initiation au massage pour couple, par exemple, oui, ça peut faire la job pour un moment intime, puis ça peut faire du bien, c'est sûr, de recevoir un massage, mais il ne faut pas s'attendre à la même rigueur puis à la même efficacité que quelqu'un qui a étudié l'anatomie et les techniques de massage pendant des centaines d'heures. De plus, même s'il n'y a pas d'ordre des massothérapeutes, ça reste qu'il y a des associations. Donc, si Tijo Massage décide de s'ouvrir sa clinique en disant « Oh, j'ai regardé des vidéos YouTube, je sais comment masser », ben il ne pourra pas émettre de reçu d'assurance parce que la plupart des compagnies d'assurance demandent un minimum de 400 heures de formation et la tangente se dirige même plutôt vers un 1000 heures de formation. Puis c'est ça, quelqu'un qui n'a pas fait de formation, ben, pourra pas faire partie d'une association, pourra pas être dans les registres de massothérapeutes reconnus au Québec, pourra pas justement émettre de reçu d'assurance, puis sa clientèle risque de se rendre compte assez rapidement qu'il n'a pas les compétences requises pour vraiment donner des soins en massothérapie.
Uh-oh.
C'est pourquoi aussi l'AMS offre seulement des formations professionnelles complètes pour s'assurer de former des professionnels thérapeutes et non comme simple loisir. C'est pas parce qu'on pense pas que ça peut être agréable de se masser en couple ou d'avoir des connaissances de base de massage, mais c'est vraiment pour s'assurer qu'on n'ait pas des gens qui sortent de ces cours-là puis qu'après ça, se considèrent comme étant massothérapeute. « Ah, moi, j'ai suivi une petite formation, je peux masser. » C'est vraiment dans ce but-là qu'on offre seulement des formations professionnelles complètes et, oui, des cours à la carte, mais qui demandent souvent un prérequis de praticien en massothérapie ou kinésithérapie, etc. Comme je parlais tantôt, la plupart des associations de massothérapeutes professionnels ont des registres de leurs thérapeutes certifiés, donc il n'y a aucun doute à avoir sur leur professionnalisme et leurs compétences. Donc j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et que si vous aviez certains de ces préjugés, eh bien que vous ne les avez plus. N'oubliez pas non plus de suivre l'Académie de massage scientifique sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Et le balado est également disponible sur Balado Québec au nom de Balado Thérapie. Donc restez à l'affût pour les prochains épisodes et à bientôt!